Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
On a coutume de dire que la France serait l'un des pays d'Europe et même du monde les plus athées, plus encore que ce pays, en plus d'être entré dans une sorte d'hiver de la foi, serait devenu allergique à Dieu. Allergique à Dieu, pas si sûr. Une étude sociologique commandée par la Conférence des évêques de France il y a quelques années à peine laisse entendre que les Français auraient une quête spirituelle bien plus importante qu'on ne le croit. Une quête spirituelle qui rime la plupart du temps avec méditation, activité artistique, pratique corporelle, énergétique, bouddhisme et spiritualité chrétienne. Cette émission Vivante Église ce matin, la nouvelle soif spirituelle des Français. Pour parler de ce sujet passionnant, autour du plateau ou par téléphone, Jean-François Barbier-Bouvet, vous êtes sociologue des religions et auteur entre autres d'un ouvrage, Les nouveaux aventuriers de la spiritualité, paru aux éditions Média Saint-Paul. Bonjour. Nous rejoindra, du moins on l'espère, Sophie Maï d'Avance, qui elle est psychothérapeute et qui est spécialiste des questions de développement personnel. Dominique Illy, qui est membre de la congrégation religieuse tibétaine Leraling et qui est un centre de retraite bouddhiste tibétain. Je ne sais pas s'il est au téléphone avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, parfait. Et Martin Pochon, qui lui est en plateau, jésuite, aumônier régional du service Incroyance et Foi. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer avec vous, Jean-François Barbier-Bouvet, pour toute cette première partie d'émission. Je le dis, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Les nouveaux aventuriers de la spiritualité, enquête sur une soif d'aujourd'hui, paru aux éditions Média Saint-Paul, et qui fait suite, je crois, donc à une grande enquête qui a été menée en 2014. Les auditeurs vont se dire, oh là là, Radio Présence n'est pas à la page, mais c'est la dernière grande enquête de ce genre qui a été menée, semble-t-il, et qui laisse découvrir une réalité bien différente de ce qu'on pourrait imaginer de prime abord quant à la recherche spirituelle des Français. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter les grandes conclusions de cette enquête, et puis je ne manquerai pas de vous aider à creuser?
Tout à fait. Rassurez-vous, le fait que l'enquête soit de 2014 ne fait qu'elle est toujours à la page pour une raison toute simple, c'est que les évolutions dans le domaine spirituel, ça bouge pas tous les mois, c'est pas comme dans le domaine politique ou culturel, et que donc ce qu'on trouve une année vaut pendant encore très longtemps, et est le produit d'une évolution assez lente. Alors en fait, c'est une enquête qui a porté sur 6000 personnes, c'est énorme, et qui sont des personnes qui, en gros, les nouveaux chercheurs spirituels, c'est des personnes qui suivent leur voie sans forcément suivre les itinéraires balisés par les religions ou les églises. Il y a un peu de cas de figure. Soit ils s'y rattachent encore, un certain nombre nous disent d'ailleurs qu'ils sont toujours chrétiens, mais ils ne se limitent pas au christianisme. Ils ont un pied dedans et un pied dehors. Ou alors d'autres qui, eux, ont les deux pieds dehors, et pour autant, ils ne sont pas de nulle part, c'est-à-dire qu'ils sont effectivement, et ils nous le disent, dans une démarche de recherche spirituelle.
Alors peut-être pouvez-vous nous dire, donc vous dites qu'il y a 8000, je crois qu'il y a 8000 personnes qui ont été interrogées, donc 6000 réponses, essentiellement, enfin la plupart du 76% pardon, des réponses, ce sont des femmes qui les ont apportées, et oui. La majorité des gens, on va dire entre 45 et 70 ans. Quel est le profil type, est-ce que c'est le profil type justement de ces nouveaux chercheurs de spiritualité ou chercheurs de Dieu, je ne sais pas exactement comment vous les appelez?
Chercheurs de spiritualité, parce que quand on a employé le mot Dieu dans l'enquête, on s'est fait un peu rabrouer, pas par tous, mais par quelques-uns qui disaient, parlez-moi plutôt de divinité, d'esprit, de souffle, etc. Donc du coup, on a adopté un vocabulaire qui était leur propre vocabulaire. Alors, si vous voulez, oui, ces personnes qui se caractérisent par le fait, et c'est comme ça qu'on les a recrutées, qu'il leur arrive de faire des sessions, des stages, des cours, des formations, c'est-à-dire d'investir un peu dans cette recherche, pas simplement d'avoir une aspiration vague. Il y a beaucoup de femmes, comme toujours quand on est dans des recherches sur le développement personnel ou le développement psychologique, etc., on a aussi une majorité de femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont très différents de l'image qu'on se fait d'habitude. On se dit, bon, bah alors c'est des bobos, ils ont du fric, ils sont urbains, ils sont jeunes, ils sont aisés. Bon, urbains, non. On en a trouvé dans toute la France, dans des proportions équivalentes. Aisés, pas tant que ça, c'est plutôt les classes moyennes. Hein. Diplômés, oui. Alors ça, c'est leur caractéristique. Outre que ce sont des femmes, ce sont très souvent des gens qui ont poursuivi leurs études au-delà du bac. C'est le cas de 75%, je crois, d'entre eux. Et surtout, dans l'image des bobos, on dit, bah ouais, les bobos, c'est des jeunes, etc. Non, les gens qui prennent ce temps-là, c'est plutôt après 40-45 ans. Voilà. Alors, il y a à la fois un effet d'âge, c'est-à-dire que c'est à partir d'un certain âge qu'on a, disons, réglé un certain nombre de problèmes professionnels, familiaux, et qu'on peut rebondir. Et puis, il y a un effet de génération, c'est-à-dire que ce sont des gens, c'est des gens de, mettons, 50, 60 ans aujourd'hui, qui étaient jeunes, donc qui se sont constitués dans les années qui ont suivi les années 70-80, qui étaient des années de forte remise en cause personnelle.
Alors, le père Martin Pochon me faisait remarquer en préparant l'émission qu'il y avait beaucoup de femmes seules parmi cette proportion de chercheurs de sens. Est-ce que, de fait, c'est le cas ?
Non, beaucoup, oui. Il y en a plus que dans la moyenne nationale. C'est-à-dire, en valeur relative, elles sont plus nombreuses qu'elles ne devraient être si c'était une répartition au hasard. Par contre, elles sont très très loin d'être majoritaires.
D'accord. Alors ensuite, je disais en introduction que cette enquête aurait été commandée par la Conférence des évêques de France. Est-ce que mes renseignements sont justes et par qui a-t-elle été menée ? Peut-être pouvez-vous nous présenter brièvement.
En fait, elle n'a pas du tout été commandée par la Conférence des évêques de France. Elle a été commandée par une équipe de recherche qui est rattachée à l'Université de Strasbourg et dont certains membres avaient travaillé effectivement dans le cadre d'une commission de la Conférence des évêques de France, mais qui n'en étaient pas commanditaires. Ceci dit, quand l'étude est sortie et a été publiée, je l'ai présenté avec toute l'équipe à la Conférence des évêques de France. On a fait un certain nombre d'interventions. Il y a eu des textes qui ont été rédigés dans le cadre de la Conférence des évêques de France qui, sans en reprendre forcément les conclusions, a trouvé que c'était extrêmement important que cette information circule et circule par leur intermédiaire.
Alors, qu'est-ce que c'est nouveau déjà, est-ce que cette enquête peut avoir prétention quelque part à être illustrative de la recherche spirituelle des Français en général
Ah oui, complètement.
D'accord.
Complètement, parce que on a fait des tas de comparaisons, si vous voulez, avec d'autres enquêtes nationales beaucoup moins fouillées. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez toutes les enquêtes nationales, les sondages de toutes origines, et quelle que soit la manière de poser la question, on a en gros un tiers des Français qui répondent qu'ils sont intéressés par le spirituel, intéressés par le sacré, ou pensent que la dimension religieuse et spirituelle est importante pour réussir sa vie. Enfin, il y a des tonnes de formulations, mais la réponse est toujours un tiers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un tiers des Français, c'est deux fois moins que les croyants, puisqu'il y a à peu près 60% des Français qui disent croire en Dieu, mais c'est huit fois plus que les pratiquants. Donc on est bien sur une attitude personnelle fondamentale qui ne se résume ni à la pratique catholique essentiellement en France, ni à la croyance en Dieu, qui peut être une croyance relativement vague, si vous voulez, dans la population nationale.
Et alors, est-ce que cette nouvelle vague, d'une certaine manière, de recherche spirituelle, on peut la dater, parce qu'on a en tête probablement tout ce qui s'est passé dans les années 70, est-ce que ça n'est qu'une lointaine réplique de ces gens qui cherchaient dans des spiritualités qu'on voyait à l'époque comme alternatives dans un pays chrétien, ou est-ce que c'est une nouvelle, on va dire, une émergence d'une nouvelle réalité sociologique ?
Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que la recherche spirituelle, ou d'ailleurs la recherche religieuse, la distinction, je ne sais pas si on y reviendra, nous on ne l'avait pas faite dans l'étude, c'est les gens qui nous l'ont dit, qui nous ont dit qu'ils faisaient une distinction. Mais disons, ces manières aujourd'hui de chercher quelque chose qui vous dépasse, hein, pour dire les choses rapidement, elle n'est pas simplement le produit de mai 68 et de choses comme ça, c'est que ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la démarche personnelle spirituelle est la même chose que ce qui se passe dans la démarche de la recherche d'engagement politique, de la recherche d'engagement familial ou culturel. C'est-à-dire, c'est un effet direct de la modernité, et à la limite, c'est pas parce que l'Église a raté son coup que par compensation les gens vont chercher autre chose.
Ça veut dire quoi, c'est la modernité? Ça veut dire quoi, c'est un effet direct de la modernité?
C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, c'est le rôle central qui est accordé à l'expérience plutôt qu'à l'expertise. Donc, si vous voulez, à ce que j'éprouve moi-même, plutôt qu'à ce qui est attesté par les pères de l'Église, la tradition, etc. Et ça, ça vaut également dans le domaine politique, ça vaut dans tous les domaines. Il y a une autre chose, la place centrale qui est accordée à l'individu, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que moi-même, je cherche à ma manière et à mon rythme, plutôt que se caler dans ce qui est la tradition religieuse. La tradition religieuse est fortement temporalisée. C'est-à-dire entre les cérémonies dominicales, les rythmes de la vie, les sacrements, les grandes fêtes, etc. Là, non, c'est à mon rythme, comme je veux, là où je suis. Et du coup, d'une certaine manière, et ça vaut, je vous dis, dans d'autres domaines que le religieux, ce qui atteste qu'une chose est bonne, c'est qu'elle me fait du bien à moi, et non pas qu'elle est légitime pour des raisons extérieures à moi. Donc si vous voulez, on voit arriver dans la sphère du religieux des critères de « ça me fait du bien », qui sont des critères qu'on avait d'habitude dans la sphère de la consommation, mais qui se transposent. Et d'une certaine manière, si on voulait catholiciser le problème, on pourrait dire que ce qui est crédible, c'est quand les gens peuvent dire « être chrétien, ou non pas être chrétien, c'est bien », on a pu dire longtemps, mais être chrétien, ça me fait du bien à moi.
Alors, voilà.
Puis un autre dernier point, parce que vous me demandiez de prendre des caractéristiques de la modernité appliquées aux religieux, puis après, je vous promets, je fais bref, c'est la place centrale accordée au corps. C'est-à-dire que le corps devient une porte d'entrée de l'expérience et un vecteur de la connaissance, y compris l'émotion. Vous savez, longtemps, on a dit dans les sphères chrétiennes, il faut se libérer de ces émotions qui seraient comme un obstacle à une démarche légitime. Et aujourd'hui, on dit il faut libérer ses émotions, ce qui n'est quand même pas du tout la même chose.
Alors, de fait, je ne vous oublie pas, hein, Dominique Hilly et Martin Pochon, mais comme Jean-François Barbier-Bouvet peut rester avec nous juste la première partie de l'émission, on en profite et puis je vous laisserai réagir après la première pause musicale. Donc, merci beaucoup de toutes ces précisions. Ce qui ressort de cette enquête, donc, c'est que, alors, dans l'ordre à peu près, les pratiques spirituelles les plus importantes menées par les Français seraient en premier la méditation. Donc ça, j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce qu'il y a derrière ce mot. Ensuite, c'est les pratiques artistiques. Après, c'est la spiritualité chrétienne. Après, c'est tout ce qui est développement personnel. Et sans aller beaucoup plus loin, après, c'est psychanalyse, psychothérapie et médecine alternative. Est-ce que vous pouvez nous aider à serrer ou à mieux comprendre ce qu'il y a derrière ces items, par exemple les deux premiers?
Je crois que c'est pour la méditation, vous allez avoir tout à l'heure quelqu'un qui connaît très très bien ces choses-là, donc qui pourra vous en parler, mais la liste que vous venez de faire, cette espèce de hiérarchie, c'est la hiérarchie des cadres, des stages et des sessions dans lesquelles les gens s'inscrivent, si vous voulez, hein, pratique artistique, méditation, développement personnel, etc. Mais pour revenir à la méditation, c'est vrai qu'on a posé, indépendamment de ces cadres collectifs, une question sur la méditation et la prière. Et que la réponse autour de la méditation est passée avant la réponse « je pratique la prière ». Alors, certains pratiquent les deux. Hein, mais ce qui est clair, c'est que la dimension, alors sans rentrer dans les différentes formes de méditation, la méditation est quelque chose qui passe par le corps, par l'assise, etc., une espèce de présence au présent. Et d'autre part, la méditation, à la différence de la prière, n'est pas adressée à quelqu'un ou à quelque chose. Hein. On ne médite pas Dieu ou Jésus ou Marie, on médite. Et ces deux dimensions fondamentales sont tout à fait cohérentes avec l'ensemble des réponses des gens.
Alors, il y a plein d'autres choses dans cette enquête, hein. Moi, personnellement, que j'ai trouvé passionnante. J'avais encore, évidemment, quelques questions, même si le temps avance trop vite. Vous avez commencé à le dire, mais qu'est-ce que ces personnes disent chercher? Est-ce que vous pouvez nous redire je vais vous aider. Moi, c'est ce que j'ai trouvé dans un article de La Croix qui résumait donc votre enquête. À 71%, ils cherchent d'abord à comprendre leur être profond et à s'y relier. À 70% trouver un équilibre et s'unifier, et à 63% vivre en plénitude l'instant présent. Est-ce que vous avez d'autres remarques peut-être ou précisions?
Tout à fait. C'est trois dimensions extrêmement importantes de la recherche spirituelle. Et dans le même classement, quand on leur demande ce qu'ils y mettent, être à l'écoute de l'esprit ou du divin arrive nettement plus loin, si vous voulez. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'au fond, les deux premières aspirations, pratiquement à égalité, c'est d'être en connexion avec son être profond, d'une part, et la deuxième chose, c'est de s'unifier, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui totalement dispersé entre ces différentes activités, ces différents rôles, ces différentes évolutions au fil du temps, et que la démarche spirituelle est aussi une démarche de recherche d'unification personnelle. Alors, Vivre l'instant présent, c'est tout à fait contemporain. C'est-à-dire que le fait qu'on soit beaucoup plus dans l'immanence aujourd'hui et qu'on aimerait arriver à avoir tout de suite quand on ira sur la consommation, ou en tout cas être dans le présent sans forcément se relier à ce qu'il y avait avant et sans forcément se projeter dans un futur et dans un salut, est tout à fait central. Et je dirais que d'une certaine manière, on a aujourd'hui dans toutes les sphères de la société, pas seulement dans le domaine spirituel, une véritable religion du présent. Il faut que ça arrive tout de suite. Et que quelquefois, alors là je reviens au catholicisme pour le coup dans sa forme traditionnelle, quelquefois on dit que l'adversaire, entre guillemets, du catholicisme, c'est le matérialisme contemporain. Non, moi je dirais que la principale difficulté du catholicisme, ou son principal adversaire, c'est la religion du présent. Alors que le catholicisme s'inscrit fondamentalement dans une histoire, dans une tradition, dans une transmission, etc. Alors, dans les aspirations, donc le fait d'être à l'écoute de l'esprit et du divin arrive un peu plus loin, mais il est pas mal placé, mais par rapport aux idées reçues, on dit souvent qu'au fond les gens ont ces types de démarches, un peu un pied dehors, un pied dedans, parce que ça leur permet d'aller mieux, parce que ça leur permet de se libérer d'un problème, de guérir, etc. Ou d'aller mieux dans leur couple. Enfin, cette idée qu'il y aurait un espèce de bénéfice instrumental de la démarche spirituelle, qu'on entend dans les clichés critiques contre les gens qui la font, arrive, quand on les interroge, eux, les intéressés, arrive à la fin. C'est-à-dire qu'au fond, toutes ces démarches qui sont coûteuses en temps, qui sont coûteuses, etc., parce que ça prend du temps de travailler là-dessus, on ne le fait pas uniquement dans un but ou thérapeutique ou psychologique, etc. C'est pas pour régler des problèmes qu'on a cette démarche.
Alors justement, j'aimerais bien finir par les préjugés, parce que c'est vrai que j'entends certains auditeurs penser, vous me direz, je me prends pas pour un voyant, hein, mais c'est vrai qu'on peut avoir en tête quelque chose d'assez de considéré comme trop individualiste par certains, de thérapeutique, etc. Ce qui ressortirait de l'enquête, j'ai noté deux choses, c'est que en fait cette démarche serait tout sauf du bricolage spirituel. Ça, j'aimerais bien que vous me racontiez ça, et que les fruits en fait de cette recherche ne sont pas un plus grand individualisme. Enfin, en tout cas, il y a une vraie générosité derrière et un engagement dans la société.
Alors pour le dire assez vite, le terme qu'on entend le plus souvent et qu'on entend beaucoup en Église quand il s'agit de critiquer ces démarches-là, c'est dire que c'est du zapping. Pourquoi ? Parce que au fond, on considère que le zapping est une espèce de démarche superficielle qui est volatile, qui se pose, qui se fixe pas, qui repart, etc. Alors quand on interroge les gens, on a quand même interrogé 8000, dont 6000 disent qu'ils sont vraiment dans une démarche spirituelle, et on voit que ce sont des comportements fortement investis au moment où ils sont vécus. C'est-à-dire, même si leur objet ou le type de religion qui les intéresse peut varier au fil d'une vie, ou, et c'est intéressant, même si leur objet peut porter simultanément sur plusieurs traditions spirituelles en même temps. Il y a des gens qui nous disent « je suis chrétien et bouddhiste ». Pour autant, c'est pas du zapping parce que c'est extrêmement investi. Et ça n'est pas non plus du syncrétisme. Le syncrétisme, c'est en gros tout ce vaut, qui est une autre critique avec le zapping qu'on entend. On dit au fond, les gens retiennent dans chaque tradition spirituelle ce qui les arrange. Non, là aussi, quand on les fait parler, ils nous disent qu'ils retiennent ce qui leur paraît essentiel. Et au fond, qu'est-ce qu'ils pratiquent ? Ils pratiquent le discernement, alors ils peuvent se tromper. C'est-à-dire qu'ils procèdent par hiérarchisation. Ils nous disent, voilà, il y a ça qui est au centre, le reste est à la périphérie. Il y a ça qui est fondamental, le reste c'est de l'accessoire. Et au fond, la figure qui rend le mieux le compte de cette démarche, de cette construction, c'est pas l'équivalence, tout se vaut. C'est l'arborescence, c'est-à-dire qu'il y a un tronc central, une tradition spirituelle majeure à laquelle ils disent se rattacher, et ils enrichissent ce tronc central par des tas de rameaux extérieurs qui s'ouvrent. C'est-à-dire qu'au fond, pour ceux qui sont chrétiens, ce qui est le cas de 60% d'entre eux, même s'ils ne le sont pas du genre messe le dimanche, mais qui disent qu'ils sont chrétiens, ce n'est pas une dilution de leur religion propre, c'est une dilatation de leur religion d'origine.
Et le dernier point qui est que ça ne conduit pas à un plus grand individualisme, oui.
Oui, alors l'individualisme, c'est-à-dire c'est pas en jargon, on parle en sociologue, on parle d'individuation, c'est-à-dire qu'effectivement l'individu est au centre et tout passe par l'individu, ce qui ne veut pas dire que tout se ramène à l'individu qui s'y limite. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a une très très forte solidarité entre guillemets ou proximité pour ces gens-là par rapport aux gens qui leur sont très proches. C'est-à-dire qu'ils cherchent des gens exemplaires dans leur environnement, ils souhaitent être exemplaires dans leur environnement, et ils ont beaucoup de relations. Et il y a une autre solidarité à l'autre extrême, et qui est propre à cette culture-là, qui est une solidarité avec la planète, avec les autres hommes, avec le grand tout, avec Gaïa, enfin, quel que soit le vocabulaire. Par contre, c'est le niveau intermédiaire où ça fonctionne plus. Le niveau intermédiaire, c'est en gros, en politique, ce serait l'État, en religion, ce serait, je sais pas quoi, le diocèse, ou le ce niveau-là d'organisation des spirituels. Bon, ils investissent pas dessus, ils investissent sur l'individu en proximité ou sur la somme des individus peuplant la planète.
Eh ben, merci beaucoup Jean-François Barbier-Bouvet pour surtout d'avoir pris du temps, parce que je sais que c'était un peu compliqué.
C'était
pour vous.
C'était un peu acrobatique ce matin, mais ça fait rien, c'était
voilà,
important.
Un très grand merci, voilà. En tout cas, je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Nouveaux Aventuriers de la Spiritualité, enquête sur une soif d'aujourd'hui, paru aux éditions Média Saint-Paul. On fait une première pause et puis après on retrouve nos autres invités pour continuer cette émission passionnante.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, la nouvelle soif spirituelle des Français, donc avec Jean-François Barbier-Bouvet, qui nous a quitté juste avant cette pause musicale. Donc je rappelle, sociologue des religions et auteur d'un ouvrage, Les Nouveaux Aventuriers de la Spiritualité, aux éditions Média Saint-Paul. Autour du plateau aussi, Dominique Illy par téléphone, qui est membre de la congrégation religieuse tibétaine Lera Ling, dont on va parler dans un instant, centre de retraite bouddhiste tibétain, et le père Martin Pochon, jésuite et aumônier régional du service Incroyance et Foi. Voilà, donc pour les diocèses de Midi-Pyrénées, c'est ça ?
C'est ça.
Alors, on devait avoir, je le dis quand même, Sophie Maï-Daouance, qui donc, elle, est à la tête d'un centre de développement personnel à Toulouse. Juste pour information, quand on fait quelques recherches sur Internet, en fait, il y a beaucoup de centres de développement personnel comme ça, ou de personnes qui travaillent au développement personnel, ne serait-ce que sur l'agglomération toulousaine, donc ça en dit long. Cette femme qui est psychothérapeute, thérapeute systémique, formatrice en entreprise, analyse, animatrice en développement personnel, etc. etc. Et ça a l'air de marcher. Dominique Yi, vous êtes membre donc de cette congrégation religieuse, l'ERA Ling, qui se situe dans l'Hérault. Est-ce que vous pouvez juste nous la présenter avant qu'on continue la conversation et peut-être qu'on fasse écho à ce qui a été dit précédemment?
Oui, bien sûr, c'est l'ERAB Ling.
L'ERAB Ling, pardon.
L'ERAB Ling, oui, c'est du tibétain et ça veut dire le lieu de l'activité éveillée ou de l'activité vers l'éveil.
Voilà.
C'est un centre qui a été créé en 1991. Et qui a grossi depuis, et qui notamment a un temple, un grand temple qui a été inauguré par le Dalai Lama en 2008. On y fait à la fois des retraites de plus ou moins longue durée, et puis on y organise aussi des séminaires, des week-ends, et puis des cours mensuels.
Voilà, donc c'est aussi, le sanctuaire de l'activité éveillée, comme vous dites. En fait, c'est donc la traduction de l'ERA Ling du tibétain au français. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être l'importance de l'activité de ce lieu? Je sais pas, il y a combien de personnes qui passent par an, qui sont passées depuis que vous êtes ouvert? Et puis, quels sont les profils des personnes qui viennent chez vous?
Écoutez, en termes de fréquentation, on a oui, plusieurs milliers de personnes qui viennent tous les ans pour faire des retraites et pour séjourner, un temps plus ou moins long sur place. Et on a aussi, parce que c'est un point caractéristique, on a 20 000 visiteurs qui nous viennent entre Pâques et la Toussaint pour visiter le temple, puisqu'on organise des visites le dimanche après-midi.
Et à quoi ressemblent en fait les gens qui viennent? Est-ce que c'est des gens de tradition bouddhiste? Est-ce que c'est des gens... Est-ce que vous retrouvez les profils dont on a parlé au début de cette émission?
Oui, tout à fait. Dans l'enquête, on retrouve vraiment les personnes qui fréquentent le lieu. Il y a bien sûr des pratiquants bouddhistes de longue date, mais aussi des gens qui vous appelez les aventuriers qui auront été appelés les aventuriers du spirituel ou quelque chose comme ça. Tout à fait, et d'ailleurs ce que je trouve dans la motivation de cette enquête, dans la motivation qui apparaît en tête de l'enquête, c'est de retrouver son être profond. Et donc dans les enseignements du Bouddha, on appelle ça retrouver sa vraie nature, la nature du Bouddha qui est en nous. Et donc c'est tout à fait, c'est vraiment cela. On parlait aussi d'être dispersé, fragmenté, et c'est tout à fait l'objet, notamment l'objet de la méditation. Il y avait un point aussi qui avait été soulevé, c'était à propos de l'environnement et de la préoccupation environnementale. Et tout l'enseignement du Bouddha tourne autour de la responsabilité personnelle qu'on peut avoir, hein, de ses actes, de ses paroles, de ses pensées. Et notamment de ses actes dans la protection de la planète. Donc, tout ça pour dire que dans cette enquête, on retrouve beaucoup de choses qui ont lieu tous les jours dans notre centre.
Parlez bien près de votre téléphone. Hein. Si vous deviez présenter le bouddhisme tibétain à ceux qui ne connaissent pas du tout, comment vous présenteriez cette voie de spirituelle, cette voie de sagesse, en fait? En quoi consiste ou qu'est-ce qui est proposé comme, on va dire, fin à un retraitant type qui viendrait et qui s'engagerait dans cette voie du bouddhisme tibétain, en fait? Qu'est-ce qu'il y a à l'horizon?
D'abord, le mot tibétain, c'est parce que cette tradition-là vient du Tibet. Je dis ça dans le sens où le bouddhisme a fleuri en Asie et dans différents pays, et à chaque fois, dans chaque pays, a pris la couleur culturelle du pays. Donc le bouddhisme japonais ne va pas être le même que le bouddhisme chinois, que le bouddhisme vietnamien, mais à l'origine, ce sont toujours les enseignements du Bouddha qui ont démarré en Inde il y a 2500 ans. Juste en passant, le Bouddha, c'est un personnage historique qui a enseigné 500 ans à peu près avant notre ère, et qui a enseigné pendant 45 ans. Et donc derrière, il y a un énorme canon, énormément de textes du Bouddha. Qu'est-ce que c'est le bouddhisme? C'est une voie de libération de la souffrance. C'est le sens du premier enseignement du Bouddha, quand il a enseigné pour la première fois à Sarnath, après des années de recherche. Libération de la souffrance, souffrance dans toutes sortes de formes, hein, c'est à la fois les souffrances physiques, mais aussi des souffrances mentales, et particulièrement en Occident, ça peut nous parler, quand on pense aux dépressions, aux névroses, aux difficultés d'être, de vivre au niveau mental. Et donc, c'est cette voie qui nous a proposé de constater d'abord qu'il y avait de la souffrance, ensuite qu'il y a des causes à cette souffrance, qui sont les émotions négatives, le karma négatif. Et puis, il y a aussi, et c'est ça le message d'espoir, il y a une voie vers la libération de cette souffrance pour atteindre l'éveil ou le nirvana, qui est un état de bonheur durable et sans condition, non conditionné.
Et à quoi ressemble cet état ? C'est-à-dire que quelle a été l'expérience fondamentale de Bouddha au bout de ce chemin de libération de la souffrance, en fait ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Il n'en a jamais parlé ou très peu parce que il savait bien que ce que lui il a réalisé, c'est une expérience personnelle, mais en même temps, il savait que tous les êtres humains peuvent la faire, cette expérience. Il a simplement, au début, dit quelques mots qui sont assez lourds de sens, comme paix profonde, libre de complexité, simplicité naturelle, luminosité non composée. Et ces quelques mots, en fait, peuvent simplement synthétiser tout l'état de ce qu'est un Bouddha et de ce que nous pouvons devenir nous-mêmes.
Père Martin Pochon, je vous demanderai une réaction, mais on continue, si ça ne vous embête pas, de creuser, parce que c'est vrai qu'on n'est pas du tout tous familiers du bouddhisme et que ça ne vous empêche pas, évidemment, d'intervenir. J'avais entendu, j'avais cru comprendre aussi que, une clé de l'aventure spirituelle bouddhiste, si je puisse me permettre cette expression, c'est d'une certaine manière en fait la sortie de soi, c'est-à-dire on finit par ne plus souffrir parce que quelque part on sort de soi-même pour rentrer dans un état d'éveil. Est-ce que j'ai à peu près compris? Est-ce que mes informations sont bonnes? Et dans ces cas-là, qu'est-ce que ça veut dire?
Je dirais que c'est une proposition qui a été faite par les premiers occidentaux qui ont étudié le bouddhisme au 19e, des sanskritistes généralement, enfin des gens qui ont étudié le sanskrit, et qui sont revenus avec une vision un petit peu nihiliste, je dirais, de... Non, il ne s'agit pas de sortir de soi. Non. C'est plus que on se crée, pour un certain nombre de facteurs et de raisons, on se crée une identité qu'on va défendre bec et ongle. Et en fait, c'est pas exactement ce qu'on est. C'est-à-dire que, au fur et à mesure dans notre vie, on va créer cette identité qu'on va pouvoir appeler l'ego ou des mots comme ça, des mots un peu occidentaux. Mais cette identité, elle est fausse parce que c'est pas ce qu'on est vraiment. Ce qu'on est vraiment, c'est le Bouddha qui est en nous, qui est complètement caché, mais qu'au fur et à mesure, précisément par la pratique bouddhiste, on va pouvoir développer au fur et à mesure. Et les qualités d'un Bouddha, c'est amour et compassion pour tous les êtres, et tous les êtres dans le sens très très large, hein, pas que les humains. On parle aussi des animaux, tous les êtres qu'on ne voit pas, la terre et tout l'univers en fait. À la fois ça, en même temps une immense sagesse de comprendre la nature des choses, et aussi le pouvoir d'aider les autres, pas de les libérer, hein, mais de les aider vers leur libération. Voilà ce qui est proposé et développé, quoi, ce qu'on cherche à développer.
Et c'est ce que les gens viennent chercher, et c'est pour ça, on imagine, qu'ils reviennent chez vous. Est-ce que c'est une voie de sagesse, on va dire, facilement accessible? Je ne sais pas, est-ce qu'il faut beaucoup persévérer? Comment vous accompagnez les gens qui viennent chez vous?
Bah, de toute façon, oui, dès que c'est une aventure humaine, ça demande du temps. Ce n'est pas forcément instantané, ça a pu arriver à quelques êtres historiques, mais ça demande du temps et il faut laisser ce temps au temps.
Entre autres,
On les accompagne? On les accompagne notamment par des enseignements. C'est-à-dire que la voie bouddhiste, on peut la résumer, le chemin bouddhiste, on peut le résumer par la méditation, l'éthique et la discipline et la sagesse. Et donc, bon, la méditation, c'est pas proprement bouddhiste, ça existait avant le Bouddha et ça demeure dans d'autres traditions que le bouddhisme. L'éthique et la discipline, c'est précisément, là ça réfère à cette responsabilité personnelle dont je parlais, c'est de faire attention à tous les actes négatifs qu'on peut causer par nos actes, nos paroles, nos pensées. Et la sagesse, c'est effectivement de comprendre la vraie nature des choses. Voilà, c'est ce qui est proposé. Donc ça c'est proposé au travers d'enseignements de maîtres tibétains, mais aussi de maîtres d'autres traditions, parce que dans le bouddhisme, il y a une importance très grande sur le rôle du maître. Le maître, c'est celui qui a réalisé les enseignements qu'il donne. Et donc, tous les maîtres ont été des disciples d'autres maîtres, Et donc, les disciples écoutent et suivent les enseignements de ces maîtres parce que eux ont réalisé ce qu'eux-mêmes cherchent.
Le maître, voilà, c'est celui qui a réalisé l'enseignement qu'il donne. Ça fait réfléchir, hein, pour nous chrétiens, Père Martin Pochon. Alors, je dis que je regrette, hein, que Sophie Maillet d'avance soit pas présente en plateau. Parce que j'aurais bien aimé qu'on parle aussi du développement personnel, parce que c'est une autre, on va dire, très grande tendance aujourd'hui de ces chercheurs de sens. Peut-être avant qu'on fasse une deuxième pause et puis qu'on engage un peu la conversation entre vous deux et puis qu'on voit aussi la particularité de la proposition chrétienne, puisqu'il y a aussi des chercheurs de sens aujourd'hui qui se tournent vers le christianisme. Est-ce que vous pourriez partager un petit peu votre expérience à vous, Dominique, parce que au son de votre voix, alors peut-être que vous n'avez plus d'accent, mais vous n'avez pas l'air d'origine tibétaine.
On est très peu d'origine tibétaine à fréquenter le centre, hein, je vous le dis tout de suite.
Alors comment vous en êtes arrivé à... Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette enquête d'une certaine manière? Est-ce que vous faites partie de ces chercheurs et puis c'est la voie que vous avez trouvée?
Oui, je suis pas trop très différent des autres, hein. C'était il y a une trentaine d'années, dans un passage de ma vie où c'était beaucoup de difficultés et beaucoup de souffrances, sans comprendre d'où ça venait et pourquoi. C'est comme si je me disais mais j'ai rien fait. Et donc j'ai rencontré les enseignements du Bouddha et au fur et à mesure. C'était assez difficile, même douloureux au début, puisque ça allait à l'encontre de pas mal de choses en moi.
C'est-à-dire?
Mais
quand vous dites que...
C'est-à-dire, c'est précisément l'identité que j'avais de moi-même comme quelqu'un de particulier, de très spécial, de quelque chose comme ça, et qu'en fait, au fur et à mesure, l'image que je voyais en face de moi, c'était non, tu n'es pas différent des autres, les autres sont aussi comme ça. Tu as des propres particularités dues à ta vie, dues à ton environnement social, parental, mais tu n'es pas tout à fait différent des autres. Et la difficulté que j'avais de vivre avec moi et de vivre avec les autres, au fur et à mesure, a permis de comprendre que ce qu'il fallait transformer en moi. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'accepter comme j'étais, avec mes limites, mais aussi des capacités que j'avais souvent ignorées. Et puis, au fur et à mesure, d'accepter les autres et de vivre en joie, même maintenant, avec les autres.
Père Martin Pochon, est-ce que ça vous inspire un premier commentaire? Et puis après, on va faire une deuxième pause et puis on ira plus loin dans la conversation.
Ben, c'est assez étonnant pour moi qui suis jésuite d'entendre cela parce que je me sens en proximité avec bien des aspects qui viennent d'être présentés. Dans la spiritualité ignatienne, il est central.
Qu'est donc la spiritualité jésuite?
Jésuite, voilà. Il est central, la notion d'expérience personnelle est absolument centrale. Ignace s'est converti, entre guillemets.
Ignace est donc le fondateur des jésuites.
Oui. Voilà, il s'est converti suite à une expérience intérieure. C'est-à-dire qu'il hésitait entre des projets de cours, des projets mondains, et il s'enthousiasmait quand il pensait à ses projets. Et puis par ailleurs, comme il s'ennuyait parce qu'il était en convalescence après une blessure très, très grave, il lisait les livres qui étaient disponibles par là, et c'était l'Imitation de Jésus-Christ et la Vie des Saints. Et là encore, quand il lisait, il se passionnait et il envisageait un peu son avenir en disant « Saint-Dominique a fait ceci, moi je ferai cela, Saint-François a fait ceci, moi je ferai cela ». Et puis, jusqu'au jour où, dit-il, ses yeux s'ouvrirent et il s'aperçut qu'il y avait une différence. C'est-à-dire qu'après avoir envisagé ses projets mondains, il restait triste et mécontent. Et après avoir envisagé de suivre le Christ, de mettre ses pas dans les pas du Christ, eh bien alors qu'il n'y pensait plus, dit-il, son âme restait allègre et contente. C'est-à-dire qu'il s'est aperçu qu'il y avait à discerner entre ce qui menait à la vie et ce qui menait à la mort, au fond, mais de l'ordre de l'expérience personnelle intérieure. Donc c'était une écoute du retentissement profond de ce qu'il portait en lui-même. Alors là où il y a à la fois une similitude, c'est-à-dire que son maître, ça a été le Christ. Donc l'importance du maître, il parle du Christ qui l'a conduit comme un maître d'école. Donc on est bien d'une proximité en même temps. Et puis il s'est fait accompagner spirituellement. Donc on a à la fois une proximité et en même temps, moi j'entends peut-être une certaine différence en ce sens que le Christ est celui... qu'il a révélé à lui-même, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'en contemplant la vie du Christ, il a expérimenté ce qui le menait à une joie intérieure, à une paix, à une ouverture aux autres. Alors il appelle ça les consolations. Alors c'est un terme spirituel peut-être ancien, mais la consolation, il l'a définie de trois manières. À la fois, quand toute chose devient signe de l'amour de Dieu, l'amour de ce mystère créateur. Et la deuxième chose est très étonnante, c'est il appelle consolation, y compris les larmes que l'on peut verser par compassion. Par compassion. Et on retrouve là encore des connotations assez proches de ce qui est présenté là. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est une ouverture du cœur. La compassion est une ouverture du cœur. Alors, elle peut être, cette ouverture du cœur, elle peut être traversée par des souffrances. Mais au bout du compte, elle apporte une paix du cœur parce que c'est une ouverture au réel.
Et le troisième point, après, enfin,
troisième point, oh ben c'était la troisième façon de définir la consolation pour lui, c'était l'augmentation de foi, d'espérance et de charité. Oui, c'est qui est assez, les trois vertus cardinales, assez classiques. Voilà.
Donc ça nous fait une courte introduction, on va dire, à la spiritualité chrétienne. On va faire une deuxième pause et puis on va engager un peu plus loin la conversation autour donc de cette question ce matin de la nouvelle soif spirituelle des Français.
Présence, place du Capitole, 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vivante Église sur le thème La nouvelle soif spirituelle des Français, donc avec Jean-François Barbier-Bouvet, auteur de Les nouveaux aventuriers de la spiritualité aux éditions Média Saint-Paul, Dominique Illy, qui est membre de la congrégation religieuse tibétaine L'Érable Ling, centre de retraite situé dans l'Hérault, et Martin Pochon, et jésuite aumônier régional du service Incroyance et Foi. Je voulais... Vous pouvez évidemment converser l'un avec l'autre, hein. Je ne veux pas trop vous contraindre parce que là ça peut apparaître un peu scolaire, donc n'hésitez surtout pas à intervenir, Dominique Illy. Mais peut-être... Oui. Allez-y, pardon.
J'approuvais de...
Vous approuviez, très bien. Est-ce que, Martin Pochon, vous avez quelques réactions à tout ce qui a été dit précédemment? Quel écho ça trouve dans le religieux, le cœur du religieux que vous êtes, et puis au regard de la vie de l'Église aujourd'hui, de tous ces chercheurs de Dieu ou tous les besoins qui ont été exprimés? Qu'est-ce qui vous frappe au milieu de tout ça?
Ben, je le disais tout à l'heure, c'est à la fois que je sens de commun, c'est qu'il y a ce besoin d'appropriation personnelle d'une vie intérieure, quoi. C'est sûr que dans la foi chrétienne, il y a un credo, un aspect dogmatique, un aspect d'enseignement, mais au bout du compte, c'est ce cadre-là qui est une direction indiquée, ne peut prendre toute sa valeur que quand on se l'approprie. Ignace dit, et c'est quelque chose d'important ça dans la spiritualité ignatienne, ce qui rassasie et satisfait l'âme, ce n'est pas d'en savoir beaucoup, c'est de goûter les choses intérieurement. Donc ce renvoi à cette expérience personnelle est quelque chose de fondamental, quoi. Évidemment, dans la spiritualité chrétienne, la notion de personne et de communion des personnes est quelque chose d'assez central.
Dites-nous peut-être quelle différence vous voyez avec ce qui a été exprimé précédemment, ou par exemple au regard de l'expérience bouddhiste qu'a décrite Dominique Illy.
Alors, il faudrait peut-être qu'il nous l'explique davantage, hein. Mais c'est clair, à la fois on se rejoint encore une fois, c'est-à-dire quand il dit, ce que j'ai entendu du moins, hein, quand il dit que expérience personnelle est aussi une expérience d'ouverture aux autres ou de présence aux autres. Là, je consonne tout à fait, quoi. Il s'agit pas de mais peut-être que nous, en tant que chrétiens, on insiste moins sur la maîtrise des désirs que le discernement des différents désirs. Il y a en nous, on est habité par un désir de vie, on est habité par un désir d'amour, on est habité par un certain nombre de choses, mais ça se présente sous des formes qui parfois peuvent être des pièges. C'est-à-dire qu'on peut être séduit par une ambition, une ambition mondaine, ou un souci de richesse, ou que sais-je, et puis on s'aperçoit que ces désirs-là, eh bien, ne mènent à rien, ou mène à la dépression. Donc il s'agit de repérer, à partir du retentissement personnel, ce qui mène à une joie durable.
Parlez-nous du Christ aussi, c'est-à-dire une différence fondamentale, c'est donc de croire qu'au milieu de cette expérience, on peut
alors
rencontrer
le Christ. Alors nous, ce n'est pas le Bouddha.
C'est le
Christ. C'est-à-dire que le Christ nous révèle que le divin est du côté de la communion des personnes. Je crois que on en a une intuition assez simple. Au fond, le paradis, c'est quand on est plusieurs à s'entendre avec joie, avec bonheur, avec paix, avec respect, avec service mutuel, vous voyez, tout ça. L'enfer, là on le connaît bien aussi, hein. L'enfer, c'est quand les personnes se haïssent et quand il y a les rivalités, les violences, etc. Donc la voie du Christ, c'est une voie... d'ouverture aux autres, de mise à disposition de soi à l'égard des autres, de don de soi, d'accueil de ce qu'ils sont, de ce qui nous est donné, de croire que d'ailleurs que quand il s'agit de vivre et d'aimer, eh bien il nous est donné ce qui est nécessaire pour vivre ce don. Et le Christ, y compris dans sa passion, nous dit que dans ce don, la vie peut surgir même si ce don est radical. C'est-à-dire nous croyons qu'ayant donné sa vie dans une non-violence radicale, hein, qui est parce que vis-à-vis de ses ennemis, il n'a pas exercé de violence, il les a respectés, alors il s'est adressé à eux clairement, mais il n'a pas usé de violence, et bien dans ce don radical de lui-même, au bout du compte, il y a la résurrection. Et c'est une résurrection pour nous où le caractère personnel demeure. mais qui met en communion avec les autres personnes. Au fond, le divin, c'est une communion de personnes. On dit père, fils, habiter du même esprit, ça c'est la notion de trinité, mais il faut bien voir que c'est une trinité ouverte. C'est-à-dire que cette communion du Père et du Fils s'adresse à nous, nous invite à entrer dans cette communion si nous vivons du même esprit, un esprit d'amour et de don.
Dominique, juste une précision. Dans le bouddhisme, en fait, on croit non, à la réincarnation, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, avant d'atteindre cet état d'éveil, devenir, c'est ça, ou de rejoindre ce Bouddha intérieur que vous décriviez, en fait, il peut y avoir une multitude de vies.
Oui, effectivement, c'est pas quelque chose de central, mais c'est vrai qu'il y a une, plutôt que de réincarnation, on parle de renaissance, c'est-à-dire que à la mort du corps physique, l'esprit demeure et va reprendre une autre habitation, un autre compagnon de vie. Et au fur et à mesure, pouvoir se purifier. Tout ça dans le but d'atteindre l'éveil et dans le but d'aider les autres, hein, et de rester pour aider les autres.
Martin Pochon, excusez-moi, oui. Allez-y, je vous en prie.
C'est pour revenir sur ce que vient de dire, et ce qui a été dit juste avant la pause musicale, ce que disait Martin Pochon, si possible.
Je vous en prie, allez-y.
De l'expérience personnelle. Le Bouddha disait souvent... De même qu'un orfèvre, donc c'était une comparaison très, très matérielle, un orfèvre, quand on lui donne ou qu'il achète un morceau d'or, il va d'abord le mettre dans le feu, il va le marteler pour voir si vraiment c'est l'or, c'est vraiment de l'or. Et il disait de la même façon, ne suivez pas mes enseignements par considération pour moi ou par amour pour moi, mais faites-en l'expérience. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est enseigné, on en fait l'expérience et on voit si effectivement ça correspond à une vérité profonde en nous. Juste une petite parenthèse sur l'expérience. On ne peut pas se fier qu'à l'expérience personnelle. Il faut aussi connaître les enseignements dont on parle. Et particulièrement pour les pratiquants occidentaux, on ne connaît pas, on n'est pas né dedans, on ne connaît pas les enseignements du Bouddha. Donc il faut commencer par apprendre et étudier ces enseignements. C'est une chose importante et c'est là le rôle des maîtres et des maîtres qui sont venus d'Asie. Les maîtres sont venus dans les années 60, les maîtres zen japonais, et puis dans les années 70, ce sont des maîtres tibétains. Et l'importance de ces maîtres, c'est qu'ils nous transmettent les enseignements du Bouddha, et donc qu'on ne va pas trouver forcément dans des livres.
Martin, allez-y, je vous en prie, finissez.
Non, après, je voulais parler de l'ouverture du cœur.
Allez-y, je vous en prie.
Alors, d'accord.
Il nous reste 2 minutes.
L'ouverture du cœur, qui est un point effectivement extrêmement important, il y a une dilatation du cœur qui se fait au fur et à mesure du chemin. Et c'est-à-dire qu'on va au-delà de l'empathie pour les gens. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une ouverture par la dévotion, la prière, parce qu'on prie beaucoup dans le bouddhisme. Hein, mais aussi, on nous propose des pratiques de compassion, parce que c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qui va venir comme ça. Et donc, on nous propose beaucoup de pratiques de compassion à faire encore et encore, où on va se considérer comme identique aux autres, ou à la place de l'autre, ou considérer les autres comme plus importants. Et aussi une pratique qui pourrait être laïque, puisque c'est ce que un peu la modernité en ce moment, qui est la pratique de Tonglen, là, qui nous vient du Tibet directement, qui est de recevoir et prendre la souffrance de l'autre. C'est-à-dire, on va prendre la souffrance de l'autre sous forme de fuminée noire, et on va donner le bonheur, la joie de vivre, sous forme de fumée blanche à l'autre.
C'est-à-dire
que vous voyez, on est dans un rapport tout le temps avec l'autre.
Voilà.
C'est un très beau mot d'une aumônière catholique qui l'utilisait là, dans un hôpital et qui parlait de fraternité d'humanité. Et je trouvais que c'était l'expression qui résume bien cette ouverture du cœur dans le bouddhisme.
Voilà, 30 secondes pour conclure. Martin Pochon.
Oui, cette compassion est quelque chose de central, on la trouve chez tous les saints de la tradition, et je crois que, au fond, dans le christianisme, la souffrance, elle est faite pour être traversée, quoi. On ne la fuit pas, mais on a l'habiter par l'amour et par l'ouverture à l'autre. Donc, par compassion, on peut souffrir, mais avec cette certitude que l'attention à l'autre et que et en misant sur ce que Dieu nous donnera, eh bien la vie triomphera et sera plus forte que la mort.
Voilà, on vous réinvitera pour faire une émission de dialogue, bouddhisto-chrétien, je ne sais pas comment on dit, ou christiano-bouddhiste. Merci beaucoup en tout cas ce matin d'être venu illustrer, chacun à votre manière, cette nouvelle soif spirituelle des Français, réalité sociologique personnelle majeure en France, dont on ne parle pas souvent, et j'espère qu'on aura bien d'autres occasions de l'évoquer. Merci beaucoup. Émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.